Sans réserve, le balado.
Ma vie quotidienne, c'est de l'éducation, de la sensibilisation sur les réalités autochtones. C'est des missions que je me suis données moi-même. En général, je pense que les peuples autochtones sont toujours aussi en mode survie, en mode justification, pas seulement en mode juste vivre. Personnellement, c'est pas parce que la politique ne m'intéresse pas que je ne suis pas politisée.
On vous propose une rencontre avec Widia Larivière.
Je suis remplie de contradictions parce que j'arrête pas de dire aux gens à quel point je suis une personne introvertie. Mais je pense qu'on n'est pas obligé d'être des personnes qui prennent beaucoup de place pour s'impliquer dans la cause ou se faire entendre, mais que finalement tout le monde a son mot à dire. J'ai grandi en ville d'une mère anishinaabe qui n'a pas québécois, fait que ça m'a pris du temps avant de pleinement réaliser ce que ça signifiait. Il y a ma mère qui a quand même joué un rôle, mais elle, c'est quelque chose qui s'est transmis graduellement de manière naturelle, mais c'est un peu à travers le regard de l'autre que j'ai un peu réalisé ma différence, si je peux dire, parce que quand j'étais à l'école, j'ai clairement un prénom en commun qui fait poser des questions, puis en fait, c'est un mot anishinaabe. Parce que c'est assez rapidement que j'étais autochtone. Je recevais quand même deux commentaires à l'école. Donc, il y a eu ce choc-là, comme à travers le regard de l'autre, vivant dans un milieu non autochtone, qui finalement, ça a déclenché des prises de conscience. Puis, quand ma grand-mère est allée au pensionnat, puis toute l'ampleur de cette histoire-là, c'est clair que ça a été un événement déclencheur de ma vie engagée pour la cause, là. J'ai travaillé pendant 10 ans, presque 10 ans, chez Femmes Autochtones Québec. Je suis vraiment hyper sensibilisée à ces questions-là, puis ça me touche vraiment beaucoup.
J'ai la chance de faire des voyages dans plusieurs pays, où est-ce que j'ai rencontré des peuples autochtones d'autres pays. Puis, je pense à une fois, je suis allée au Guatemala, c'était justement une rencontre continentale de femmes autochtones. J'étais allée une semaine à New York, j'ai fait un séminaire en défense des droits humains. C'était un programme pour des femmes autochtones de partout à travers le monde. Puis, je dirais qu'il y a vraiment beaucoup de parallèles entre ce que les femmes autochtones vivent dans d'autres pays aussi. Là, ils sont autant, sinon plus, même à certains endroits, victimes des impacts de la colonisation. Puis des fois, c'est juste carrément les mêmes choses. J'étais allée une fois au Forum social mondial en Tunisie, puis il y avait une présentation faite par les femmes autochtones d'Australie. Puis c'était sur... ils appelaient ça le « stolen generation ». Puis finalement, c'était l'équivalent d'ici de la rave des années 60. Puis ce qu'ils racontaient, c'était exactement pareil. Puis j'étais comme « OK, c'est juste exactement la même chose », mais c'est ça. Fait qu'il y a plein de parallèles à faire. Puis de choses comme ça qui reviennent vraiment à travers le monde. C'est pas nécessairement comme spécifique ici, au Québec ou au Canada. C'est vraiment comme à travers le monde, les femmes autochtones se mobilisent, sont à la tête d'initiatives. Puis le lien se crée rapidement, même si on est loin physiquement, il y a comme une espèce de connexion à un autre niveau là, qui se fait rapidement.
Je suis constamment inspirée par tout le travail des femmes autochtones parce que, comme je t'ai demandé, il y a des femmes autochtones qui s'incluent et qui sont élues dans la politique et qui sont en train de reprendre place qu'on avait jadis à l'époque précoloniale parce que avant la colonisation, je ne vais pas généraliser, mais les femmes avaient des rôles importants dans les prises de décision, puis même carrément, c'est-à-dire qu'il y avait les derniers mots chez certaines nations. Fait, je trouve ça inspirant de voir qu'en ce moment, bien, il y a de plus en plus de femmes qui réussissent à s'impliquer en politique. Puis même en général, c'est pas clairement qu'en politique, c'est des personnes qui m'inspirent. Canard, c'est une organisation que j'ai cofondée en 2015, qui est en train de grandir de plus en plus tranquillement. toute la mission de l'organisation, justement, de sensibiliser différents publics sur les ILP autochtones. Donc, c'est vraiment une organisation qui m'a donné la mission exclusive, justement parce que les changements se déroulent pas aussi rapidement qu'on l'aurait espéré. Fait qu'on a cette année d'attendre, puis finalement, on a fait de venir combler ce besoin de sensibilisation et d'éducation sur ces questions-là à notre manière.
Il y a trois champs d'action. Il y a un volet éducation dans lequel il y a notamment des ateliers, des formations, mais on développe aussi des outils de sensibilisation, notamment comme avec Amnesty International, on a développé un guide qui démystifie des préjugés qu'on entend encore un peu trop souvent sur les peuples autochtones. On développe ce genre d'outils-là aussi en ligne là, qui vont être accessibles et gratuits. Il y a aussi un volet empowerment des jeunes. Donc, on a des jeunes autochtones de différentes nations qui s'intègrent dans l'organisme et dans l'animation de nos activités. Puis, un volet développement de partenariat avec des milieux qui ont déjà été formés puis qui sont prêts à entamer des changements en termes de colonisation, de sécurisation culturelle, qui ont besoin d'accompagnement.
J'ai comme l'impression que quand on est une personne autochtone, on porte un espèce de fardeau, comme je suis fière là, aujourd'hui d'être Anishinaabekwe, puis je dis pas que ça sonne négatif non plus, mais j'ai l'impression qu'on porte plusieurs fardeaux, en fait, quand on est autochtone. Même si on n'a pas envie de s'impliquer politiquement dans des mouvements sociaux, tout ça, on dirait qu'ils ont comme pas le choix, par défaut, de devoir s'impliquer, puis c'est comme on devient politisé malgré tout, puis on porte aussi, en quelque sorte, un espèce de fardeau d'éducation, parce qu'il y a tellement de méconnaissances puis d'ignorance de la part des Autochtones sur les réalités des peuples autochtones. Puis là, les gens, ben, quand ils rencontrent des personnes autochtones, souvent, ils leur posent plein de questions, même si cette personne-là n'a peut-être pas nécessairement envie ou n'a peut-être même pas nécessairement les connaissances pour répondre à toutes ces questions-là, parce que dans le cursus scolaire, on n'enseigne pas ça suffisamment ou de manière adéquate. Puis j'ai l'impression que moi-même, j'ai porté un peu ce fardeau-là pendant des années. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que là, j'ai fini par en faire comme mon ambition de vie, là, quelque part. Mais, tu sais, pas tout le monde a envie de faire ça. Puis moi, je suis entourée de personnes autochtones qui n'ont pas nécessairement envie de le faire. Fait que c'est pour ça que je réfléchis ça aussi. Y a-t-il des moyens qu'on puisse enlever ce fardeau-là sur chaque individu autochtone? Si on ne demandera pas à une personne québécoise d'être experte en tout, géographie, les arts et cultures, la langue, puis de lui poser plein de questions sur la politique québécoise, là, puis la langue, puis la linguistique. C'est comme, on va jamais exiger autant d'expertise puis de réponse de la part des Québécois, mais on l'exige pourtant des personnes autochtones.
C'est sûr que notre génération n'est pas allée dans les pensionnats, on n'a pas vécu directement les impacts des pensionnats, on a vu quand même des conséquences intergénérationnelles, mais on est comme obligé de lâcher pour perpétuer, en fait, les cultures autochtones, parce qu'on est comme en position de se réinventer, par exemple, à travers la modernité, puis les cultures en général qui perdurent, c'est des cultures qui évoluent, et qui peuvent changer, s'inspirer de plusieurs choses de nos milieux de vie, puis finalement, je pense qu'il y a différentes manières de s'intéresser à son identité ou avoir un sentiment d'appartenance avec la communauté, puis je pense que c'est peut-être à travers un intérêt, que ce soit les sciences, les arts. Il y a toujours un moyen de découvrir c'est quoi les connaissances traditionnelles, puis comment est-ce que justement le milieu autochtone peut aussi se l'approprier. Puis on a toujours besoin de modèles inspirants, mais aussi en avoir une très grande diversité, justement dans lesquelles différents autochtones peuvent se reconnaître, puis montrer qu'il n'y a pas juste une manière d'être autochtone, mais il y a 6 millions de manières de se sentir autochtone. Ils sont toujours valorisés par rapport à ça. J'ai eu la chance de rencontrer vraiment beaucoup de jeunes autochtones qui sont super allumés, super motivés, super politisés, qui ont envie de changer les choses dans leur communauté. Puis finalement, tout ce qui leur manque, c'est des ressources pour pouvoir mettre en application. C'est ça qui me donne énergie, c'est de voir que finalement, ensemble, c'est un espèce de mouvement collectif.
Encore apprentie, là, mais je suis comme impliquée un peu plus dans le milieu du cinéma. J'ai fait deux courts-métrages avec le Watchkin Model. C'est des choses qui continuent à m'intéresser. C'est comme parallèlement, évidemment, je suis comme impliquée par des projets documentaires, la recherche et la co-scénarisation qui mettent de l'avant les réalités des voix de personnes autochtones. Les projets en cours sont pas terminés. Là, je suis mentorée par Kim Obomzawi. Je suis en train de scénariser un documentaire qu'elle va réaliser sur les perspectives autochtones de la neurodiversité.
J'essaie le plus possible de visualiser l'avenir d'une manière très positive, puis ça me fait travailler auprès des gens autochtones. Ça redonne espoir par défaut parce que malgré les défis, il y a toujours cette flamme-là de vouloir changer les choses, puis je crois très fort à l'énergie des jeunes autochtones, puis aussi leur persistance. Puis c'est vrai que les changements se font de manière graduelle parfois, mais au moins, elles se font, puis en regardant la résistance puis les luttes des autochtones depuis longtemps, c'est à travers ça que j'essaie quand même de garder espoir.
Sans réserve, le balado est une production de Production Mustang et Animikissi Digital Production. À la réalisation, Sandy Pinteus. À la gestion et au contenu, Marie-Josée Baudreau. Au mix sonore, Luc Bouchard.